RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Ils travaillent et pourtant certains d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Comment est-ce possible? Avec l'inflation, ceux que l'on appelle les travailleurs pauvres voient leurs difficultés s'accentuer. Ils seraient en France plus d'un million, mais pourtant sont-ils devenus invisibles? On va en discuter avec nos invités. Et parmi ceux dont l'avenir est difficile à dessiner, il y a les saisonniers à la mer, à la montagne, dans les champs. Ils sont recrutés dans tous les secteurs, mais comment les accompagner? Comment en faire connaître également leurs droits et les défendre dans certains cas? On en discutera plus particulièrement dans la seconde partie de l'émission. À 10h, soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que connaissez-vous des travailleurs pauvres? Quelle image en avez-vous? Si vous êtes concerné directement, avez-vous l'impression d'être invisible ou d'être mal compris, voire méprisé par la société? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et pourtant ils travaillent parfois dur, parfois très tôt, mais souvent avec des trous dans l'emploi du temps ou seuls parents avec des enfants au foyer. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, avoir un emploi ne protège pas de la pauvreté puisque un travailleur pauvre est une personne qui travaille mais dont le revenu de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Alors en France et selon l'INSEE, ils sont 1 million à vivre avec 1100 euros par mois. Ce sont ceux que l'on appelle les travailleurs pauvres. On reviendra sur ces chiffres. Travail précaire à temps partiel, leurs revenus trop justes ont des conséquences aussi sur leur vie sociale. Ils s'isolent au point de finir par être invisibles, vous le disiez. Pourtant, nous nous croisons tous les jours sans connaître leurs contraintes, leur honte et parfois leur courage. Alors les clichés s'accumulent et c'est de cela aussi dont nous allons parler ce matin.
Et pour justement en discuter, Madeleine, jusqu'à 10h, on a le plaisir ce matin d'accueillir trois invités.
Oui, avec nous, Michel-Pierre Chélini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire économique contemporaine à l'Université d'Artois et à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes spécialiste des salaires, de l'inflation, de la globalisation et l'auteur de nombreux ouvrages et notamment l'auteur du livre « Les salaires en France de 1945 à 1967 » aux éditions Peter Lang. Avec nous également, Bruno Tardieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes volontaire permanent au sein de l'association ATD Quart-Monde. Vous êtes attaché au Centre de mémoire et de recherche Joseph Wrzinski, dont vous avez également été le directeur pendant 4 années. Vous avez aussi participé à une recherche sur la lutte contre la misère avec des philosophes et des personnes en situation de pauvreté. On y reviendra. Une belle expérience. Merci aussi d'être avec nous à Anne Brunner. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Vous coordonnez l'édition des publications et vous co-dirigez les rapports sur les inégalités en France. Merci au studio de Tours qui vous accueille, en particulier à Éric Huguet du Lorrain. Et pour commencer, on va prendre le temps sur ce terme de travailleur pauvre. C'est une expression relativement récente puisqu'elle date de 1960, enfin des années 60, on va dire. Anne Brunner, comment est-ce que vous prenez en compte cette définition dans vos différents rapports quand on parle de travailleurs pauvres, qu'est-ce que cela veut dire?
Alors ça veut dire deux choses. D'abord qu'on est au moment de l'enquête en emploi. On peut être salarié ou en activité indépendante. Et puis qu'on vit sous le seuil de pauvreté. Et là, ça mérite peut-être, avant qu'on entame la discussion, de comprendre ce que c'est que le seuil de pauvreté et comment on mesure si une personne est en dessous ou au-dessus. Donc en France et dans un certain nombre de pays dans le monde, on fixe le seuil de pauvreté de manière relative au niveau de vie de la classe moyenne. Imaginez qu'on ait classé tous les Français du plus pauvre au plus riche. On prend celui du milieu. Ça, c'est le niveau de vie médian. Et puis, quand on divise ce niveau de vie par deux, ça donne 965 euros, on fixe un seuil de pauvreté qui est fixé donc à 50% du niveau de vie médian. Et on décide que si on est en dessous de la moitié de ce que gagne la classe moyenne, finalement, on va être considéré comme pauvre. Alors là, je vous donne une norme qui est celle du seuil à 50%. Ça donne 965 euros par mois après le versement des prestations sociales. On prend en compte tous
donc
les revenus.
C'est la somme dont on dispose sur son compte, on pourrait dire. En tout cas, c'est la somme qu'on a pour le mois, 965 euros.
Exactement. Et ça, c'est une norme que retient très souvent l'Observatoire des inégalités. Il y en a une deuxième qui est très courante dans le débat public, qui est de fixer le seuil un tout petit peu plus haut. Vous disiez tout à l'heure 1100 euros, 1165 euros pour l'année 2021, où là, on retient un seuil de pauvreté un peu plus haut. Donc, on va compter plus de personnes pauvres et on l'a fixé à 60%. Donc, c'est toujours une notion relative. Être pauvre, c'est être pauvre par rapport à la classe moyenne de notre pays et c'est gagner beaucoup moins, 60% ou 50%, ou encore être bien sûr en dessous de ce seuil de pauvreté, hein, puisque on va rassembler, si je prends notre seuil à 965 euros, 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil et qui sont dans des situations très différentes. Il y a des enfants, il y a des personnes qui sont au chômage ou inactives, et donc il y a des travailleurs. Il faut que je dise aussi peut-être que ce seuil, enfin en tout cas les niveaux de vie des personnes françaises, avant qu'on les classe du plus pauvre au plus riche, eh bien on a tenu compte de la composition du foyer, on a pris tous les revenus du ménage. L'enquêteur de l'INSEE frappe à la porte d'un logement, puis regarde combien il y a de personnes, combien gagnent toutes ces personnes, et on divise, pas tout à fait par le nombre de personnes qui se trouvent dans le logement, mais par un nombre d'unités de consommation, hein. C'est un concept statistique qui permet de tenir compte du fait que avec 965 euros, ou avec 1900 euros le revenu médian, on vit pas de la même manière si on est célibataire ou si on a des enfants. Donc pour vous donner une petite idée, un autre seuil à 965 euros, il correspond à 2000 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Et puis le seuil à 1158 euros, eh bien, il correspond à un couple qui gagnerait 2400 euros avec deux enfants de moins de 14 ans. Donc on tient compte aussi de la composition familiale et puis des revenus de l'ensemble du ménage. Si bien qu'être travailleur pauvre, ça veut dire travailler au moment où on fait l'enquête. Et ça veut dire que pour l'ensemble du ménage, l'ensemble des personnes du ménage ne suffisent pas à vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Donc derrière ça, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être lié au revenu, au salaire, qui n'est pas suffisant sur l'année complète pour dépasser cette moyenne de 965 euros sur l'année. Mmh. Ça peut être lié aussi, et c'est souvent combiné, hein, il y a plusieurs causes qui vont se cumuler, à la composition du ménage. Par exemple, si une personne gagne peu et que c'est le seul salaire qui rentre pour l'ensemble d'un ménage qui comprendrait un conjoint ou des enfants, mais il y a plus de risques de vivre sous le seuil de pauvreté. Donc c'est l'ensemble de la situation de la famille qui est prise en compte pour faire cette mesure.
Oui, c'est important de bien redéfinir. Donc, on comprend que c'est un niveau de vie global. Bruno Tardieu, vous, il y a bien sûr cette définition, hein, qui est officielle et c'est aussi celle que vous prenez en compte. Dans la mesure où vous travaillez aussi sur le terrain, est-ce que vous, pour vous, vous élargiriez cette définition? Est-ce qu'elle a une autre couleur pour vous à ATD Quart Monde?
Non, je
pense
pas.
Comment vous compléteriez cette définition, peut-être?
Oui. Bonjour et merci de m'avoir invité. Oui, je pense que c'est pas la peine de l'élargir, mais par contre, on peut lui donner des couleurs, en effet. L'expérience que décrit à l'instant Anne Brunner, c'est bien souvent de se sentir pas du tout appartenir au monde du travail aussi. C'est-à-dire que non seulement le salaire est bas, mais quand vous m'avez proposé cette émission, j'ai immédiatement pensé à des gens, des membres d'ATD Quart Monde. Les premiers membres d'ATD Quart Monde, c'est des gens qui vivent dans la pauvreté. Et les deuxièmes, c'est des gens comme moi qui les rejoignent à plein temps. Mais je pense à Marie-France Zimmer, qui pendant tout le temps où elle était déléguée nationale avec moi, elle travaillait le matin dans une banque, elle devait se lever très tôt, partir en bus pour nettoyer une banque avant que la banque ouvre. Et en fait, elle ne voyait personne. Et plusieurs fois, elle a remarqué que ses employeurs la soupçonnaient aussi de voler. Donc, ils ont laissé un billet traîner ostensiblement, et Marie-France, ça l'a vraiment blessée. Elle a fini par mettre le billet à la poubelle en disant que c'était vraiment pas correct de l'appâter au vol. Donc il y a énormément de dimensions de la pauvreté qui sont des dimensions relationnelles. Mais évidemment, il faut objectiver aussi ce manque. Mmh. Et ce qui se passe aussi, c'est vous avez eu la délicatesse dans vos infos de dire que la SNCF mettait des billets en vente pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Mais c'est très rare que ça soit dit dans les médias. En fait, il y a près de 35 à 40% des gens qui ne partent pas du tout en vacances. Mais à chaque fois, pendant les vacances, on dit « voilà, tout le monde est en vacances ». Donc, en fait, les gens se regardent dans un miroir où ils ne se voient pas. Donc, bien sûr, la pauvreté est relative. Mais le prix Nobel d'économie, qui était spécialiste de la pauvreté, Amartya Sen, a bien montré aussi qu'il y a un côté absolu où vous ne pouvez plus faire certaines choses qui fait que vous appartenez avec les autres. Et sur le côté du
Alors
travail...
Alors justement, sur les relations sociales, on y reviendra. Oui, on vous écoute pour finir, oui.
Oui, non, mais simplement, c'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs pauvres qui ont, comme vous l'avez dit, quelques heures par-ci, par-là, et qui du coup ne ressentent pas l'appartenance à une entreprise et ne ressentent pas la solidarité avec les autres travailleurs et donc la possibilité aussi de se défendre.
Oui, l'importance alors de se défendre, de cultiver des relations sociales. On y reviendra sur ce volet-là parce que c'est vraiment majeur aussi. C'est pas seulement une pauvreté financière, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à se construire avec les autres. Michel-Pierre Chélini, que vous inspire cette expression de travailleur pauvre ? C'est pas qu'une expression, évidemment, derrière il y a des vies. Comment est-ce que vous le concevez ?
Bah, écoutez, tout ce qui vient d'être dit est déjà une très bonne introduction. On peut remercier les deux intervenants précédents pour les précisions à la fois, comment dire, le périmètre statistique, hein, dans un premier propos, et puis également un petit peu plus de chair dans le détail. Je ne sais pas s'il faut regarder un peu plus par catégorie par rapport à ce que vous avez prévu dans l'émission, mais c'est vrai qu'il y a des sous-groupes qui sont, alors pour l'instant on les donne de manière un petit peu abstraite, hein, puis après bien sûr on prendra des exemples, mais il y a des sous-groupes qui sont plus vulnérables à la pauvreté que d'autres, par exemple les chômeurs. Le taux de pauvreté en France est autour de 14% si on le prend à 60% du revenu médian, bon, mais les chômeurs c'est 35%. Les chômeurs, les familles monoparentales, les personnes qui sont seules et qui élèvent des enfants, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, les étrangers, les non-nationaux, enfin qu'on les appelle comme on veut, hein, qui n'ont pas la nationalité, donc pas la plénitude des droits du territoire. Voilà, on a des catégories. Et puis inversement, alors en tout cas au moins en France, après si vous voulez on parlera de l'Europe tout à l'heure, on a des catégories qui avant, enfin j'entends avant, il y a 2-3 générations, étaient pauvres et qui alors ne le sont plus. Rien n'est jamais définitif ici-bas, mais enfin, dans l'espace de temps, on va dire sur les 50 dernières années, puis peut-être pour les 30 prochaines années, ne sont pas en situation de pauvreté, je pense aux retraités. Les personnes âgées, qui se confondent souvent avec les retraités, même si c'est pas les deux ensembles ne se recoupent pas parfaitement, les personnes âgées, dans les anciennes sociétés, alors d'abord il y en avait moins évidemment, mais souvent leur retraite signifiait la fin du travail, et dans une société où majoritairement le travail était manuel, la fin du revenu, quand il n'y avait pas de système de retraite. Et les systèmes de retraite et de santé, malgré tous les défauts qu'on leur prête, hein, surtout en France où on est toujours assez vite mal content, eh bien, ont permis que finalement chez les retraités le nombre de pauvres soit relativement faible. On n'a qu'un, si vous me permettez l'expression, hein, ne le prenez pas mal, mais qu'un taux de 10%, c'est-à-dire en dessous du seuil moyen de pauvreté qu'on observe en France. Et j'ai regardé un peu chez nos amis allemands qui ont pourtant un bon système de retraite, etc. Mais les personnes âgées, pour différentes raisons qu'il faudrait creuser, les personnes âgées sont au contraire au-dessus, en termes de taux de pauvreté, au-dessus de la moyenne nationale. Ce qui correspondrait plus à un système un peu plus ancien. Enfin bon, l'Allemagne a fait évoluer ses retraites. On ne va pas entrer dans tous les détails. Voilà un petit peu quelques réflexions préalables.
Alors, peut-être simplement pour préciser, Anne Brunner, donc là, on a un petit peu dévié parce qu'on est parti sur les retraités qui sont d'anciens travailleurs,
oui,
qui sont peut-être désormais pauvres. Mais ceci dit, ça soulève aussi la question de... on a les États-Unis en tête, hein, parce qu'on pense à ces retraités qui finalement reprennent un travail et deviennent, en fin de compte, des travailleurs pauvres. Anne Brunner, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous imaginez intégrer dans vos recherches, c'est-à-dire ces retraités, semi-retraités, qui en fait reprennent un travail parce que la retraite n'est pas suffisante et donc seraient-ils considérés comme des travailleurs pauvres, âgés, des travailleurs âgés pauvres?
Alors pour l'instant, on ne s'est pas véritablement penché sur cette question. Ce qui a permis cette évolution au cours des années 70, hein, d'une diminution du taux de pauvreté chez les personnes âgées, bah, c'est d'abord l'activité des femmes. Mais ce qui vient un petit peu contrecarrer ces évolutions de très longue période, qui sont une très bonne nouvelle, c'est deux phénomènes. L'extension du chômage de masse, qui fait qu'arrivent aujourd'hui des personnes à l'âge de la retraite sans avoir des montants de retraite suffisants compte parce qu'ils ont connu des périodes de chômage au cours de leur carrière. Les réformes des retraites qui viennent aussi exiger un travail plus long quand on voit augmenter chez les personnes qui sont plus soumises à la pénibilité, qui sont les travailleurs pauvres de la vie active dans les âges déjà avancés, qui finissent par, pour une partie d'entre eux, sortir du marché du travail parce qu'ils sont trop cassés, fatigués par le travail, un travail pénible physiquement, être en mauvaise santé, notamment, trop découragé pour chercher du travail, eh bien ces personnes-là, on va exiger d'elles d'attendre encore plus longtemps. Et puis un dernier phénomène qui vient, c'est plutôt à mon sens une bonne nouvelle pour les personnes âgées, c'est la révision, la revalorisation du minimum vieillesse, notamment au cours du premier quinquennat Macron, donc il faut le souligner, qui a porté le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, en tout cas celui que je vais retenir souvent dans mes propos, celui à 50%, le plus bas, ce qui fait qu'en théorie, presque, on pourrait imaginer que cette mesure, elle vient faire en sorte qu'il n'y a plus de personnes de plus de 65 ans, c'est l'âge exigé pour toucher le minimum vieillesse, qui seraient sous le seuil de pauvreté. Bon, c'est la théorie, on ne le voit pas encore tout à fait dans les chiffres. C'est important de le souligner. On pourrait tout à fait imaginer une protection sociale qui prévoit qu'à partir d'un certain âge, 65 ans, c'est déjà un âge avancé pour des ouvriers, des employés qui ont une vie professionnelle extrêmement pénible. Mais en tout cas, qu'à partir d'un certain âge, on dit, il suffit finalement d'élever le minimum social prévu pour les personnes âgées et puis on éradique la pauvreté de ces personnes-là. C'est une mesure tout à fait à notre portée et on n'en est pas loin.
Il est 9h20, je pense, donc j'agis, vous l'entendez, ce matin on parle de la situation des travailleurs pauvres et vous avez la parole pour en discuter avec nous, pour réagir également à ce que disent nos invités. Que connaissez-vous des travailleurs pauvres? Quelle image en avez-vous? Et si vous êtes concerné directement, est-ce que vous avez cette impression qu'on évoque d'être invisible ou d'être mal compris, voire méprisé par la société? Venez témoigner au 04 72 38 20 23, 04 72 38 2023.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos trois invités, Madeleine, dans cette première partie, Anne Brunner, Bruno Tardieu et Michel-Pierre Chélini. On continue.
Michel-Pierre Chélini, qu'est-ce qu'il en est plus largement en Europe? Parce que est-ce que la France est un cas à part? Vous avez étudié, vous, les salaires en France, 45-67. Est-ce que pour autant la France est un cas spécifique et c'est pour ça que vous vous êtes intéressé à la France? Ou est-ce que, en fait, ça rejoint finalement plutôt ce qui se passe en Europe de manière générale?
Oui, alors, il est assez intéressant, même si les statistiques sont pas toujours comparables, parce que le système intégré de données à l'échelle européenne doit tenir compte des différences nationales. On n'est pas un État fédéral, vous le savez, donc. Mais en gros, si on peut prendre les choses sérieusement, la France est un peu en dessous de la moyenne européenne, qui serait, si on prend l'ensemble des populations pauvres, qui serait à peu près de 16%. Et donc, on veut.
C'est-à-dire 16%, c'est.
C'est le taux européen. Et le taux français, ramené aux normes européennes, est de 14%. Donc c'est quand même un petit peu mieux, si je puis dire, à l'échelle française, par rapport à l'ensemble des voisins.
Mais 14%, c'est quoi?
C'est le taux de personnes pauvres par. Alors ça déborde les seuls travailleurs pauvres.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est très au-delà. Excusez-moi. Oui. Je précise ce point. Et donc à l'échelle européenne, eh bien, on a une moyenne qui est plutôt à 16, si ramenée au standard, on va dire, de l'ensemble du continent. Alors. Dans les moins bas, on a, dans les seuils les plus bas, on a des pays qu'on n'attendrait pas d'ailleurs nécessairement là, comme la République tchèque, 10% de pauvreté, la Finlande, 12%, là c'est déjà plus standard avec nos idées, notre image d'une Scandinavie égalitaire. L'Allemagne, la France, l'Autriche sont à peu près dans les mêmes standards, avec bien sûr après des différences régionales, par catégorie professionnelle, etc. Et puis on a, au-delà des 16% qui sont la moyenne européenne, on a des pays comme la Grèce à 18%, la Roumanie à 21-22%. Le pays le plus pauvre, entre guillemets, de l'UE et la Bulgarie, qui dépasse les 22%. Taux qui, mais avec beaucoup de précautions, parce que là aussi, les statistiques sont pas toujours comparables, taux qui est à peu près celui de la Grande-Bretagne, donc qui est hors UE, et qui a un taux relativement élevé. Mais en Grande-Bretagne, là aussi, est-ce que la comparable... Enfin, certainement, la pauvreté est haute, hein, c'est un pays dans lequel les niveaux d'inégalité au sens statistique du terme, c'est-à-dire les écarts entre les personnes, on va dire, les plus correctement payées et les personnes les moins correctement payées, sont parmi les plus élevés d'Europe. Donc c'est conforme, on va dire, à ce qu'on peut voir dans la théorie. Mais encore une fois, il n'est pas impossible que dans le détail statistique, parfois on est obligé de se battre avec des biais sur lesquels il faut surveiller. Donc globalement... Et certainement grâce à son système social, qu'on ne valorisera pas assez, que ce soit dans les médias ou dans les ouvrages, grâce à son système social qui tient, quoi qu'on en dise, bien, d'accord, il est en déficit, il faut attendre longtemps pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Enfin, il y a plein de défauts hein, que les Français aiment bien porter sur le système social. Mais dès qu'on voyage, sauf si effectivement on va dans les pays un peu comparables, dès qu'on voyage, on se rend bien compte que c'est ce système dans son ensemble, avec certes ses défauts ou ses limites, c'est ce système-là qui permet ses compensations.
Alors Bruno Tardieu, je voudrais qu'on vous entende parce que ce système, par exemple si on s'arrête sur le système de santé, ce système il existe. Pour autant, est-ce qu'il y a vraiment une démarche facile, entre guillemets, c'est pas parce que ça existe que finalement ils sont utilisés. Qu'est-ce que vous diriez sur le comportement des travailleurs pauvres vers ces services qui sont proposés?
C'est une très grande question, mais c'est sûr qu'une des grandes actions d'ATD Quart Monde a été de prendre les quatre piliers de la sécurité sociale et de les rendre universels. C'est-à-dire que pendant des années, les gens, pour aller chez le médecin, ils devaient aller à la mairie chercher une feuille rose qui était l'aide sociale médicale gratuite. Ça me rappelle l'histoire d'une petite fille, Nathalie. À l'école, on demandait à quoi ça sert la mairie. Et elle répond, ça sert quand ma mère est malade. Et tout le monde rigole parce que c'est pas vrai. Mais pour elle, c'est vrai. Pour elle, c'est vrai. Quand sa mère est malade, elle en a ras-le-bol d'aller à la mairie et de se faire maltraiter. Donc elle envoie sa fille qui va chercher la feuille rose pour que sa mère aille chez le médecin. Et donc ça, c'est un aspect très important. C'est le côté normatif de notre société qui ignore la réalité des pauvres et des travailleurs pauvres et qui donc pense que c'est pas vrai ce que disent les gens, pas vrai ce que dit Nathalie. Mais je dis ça parce qu'on s'est battu comme des chiffonniers, grâce en particulier à Paul Boucher, qui était notre président, qui était un très grand juriste, et grâce à une expérimentation qu'on a faite à Nancy, pour montrer qu'en fait, on pourrait rendre la sécurité sociale universelle. La sécurité sociale a été universelle qu'en l'an 2000. C'est la couverture maladie universelle. Et ça change tout. Ça veut dire que même pour les médecins, ils voyaient plus les maladies des gens très pauvres, parce qu'ils allaient dans des dispensaires spéciaux pour pauvres. Et ça, c'est une catastrophe pour tout le monde. Donc c'est la ségrégation, si vous voulez. Aux États-Unis, on disait separate but equal, mais c'est pas vrai, quoi. Quand on est séparé, on peut pas être égaux. Donc la CMU, c'est une très grande victoire. Pour autant, on doit continuer de se battre, parce que on a constaté que Et ça s'entend pas tellement dans les enquêtes, bien que l'INSEE va faire une enquête sur la maltraitance sociale et institutionnelle dont on est très fier.
La
Mais les gens,
maltraitance sociale et institutionnelle, de quoi il
oui,
s'agit?
ben, je vais y revenir dans un instant, mais quand les gens disent, mais moi quand j'appelle le médecin et qu'il me demande si j'ai la CMU et tout à coup il me dit qu'il n'y a pas de rendez-vous, c'est ça. C'est-à-dire que puisque vous êtes à la CMU, vous devez probablement être quelqu'un de compliqué. Et on a fait des enquêtes sur ça, on a fait des testings, etc. Les médecins étaient absolument furieux parce que les testings, ça a un côté un peu où on est pris au piège, si vous voulez, parce qu'on fait des tests fictifs. Mais les médecins ont changé d'avis quand on a gagné cette loi contre la pauvrophobie, contre la discrimination envers les gens pauvres. Ils nous ont demandé des formations. Donc il y a plein d'a priori dans tous les milieux. Bon, on tombe sur les médecins là, mais c'est pareil pour toutes les professions. Il y a plein d'a priori qui fait que on a une tendance à faire une présomption d'incapacité. Si vous êtes en centre d'hébergement, probablement vous serez un mauvais travailleur. Et du coup, à la discrimination. Et donc vous avez raison de dire que cet état social, il est fondamental, mais il faut pousser un cran de plus pour arrêter de stigmatiser les gens pauvres, arrêter de supposer qu'ils sont compliqués, qu'ils sont tricheurs, qu'ils sont feignants, etc. Ça, c'est extrêmement prégnant. Et nous, on lutte énormément contre ça parce que notre action est à la fois auprès des gens défavorisés pour qu'ils arrivent à sortir de l'idée qu'ils sont. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dans ma vie de volontaire à TDK Monde, je croyais que j'étais bête. Je croyais que j'étais bête. Moi, ça me bouleverse parce que c'est ce que les gens voient bien, toute l'intelligence qu'ils déploient, mais à force de leur dire que c'est pas ça qu'il faut faire, que c'est pas vrai ce qu'ils disent, ils finissent par douter d'eux-mêmes. Alors, maltraitance sociale et institutionnelle, c'est une grosse étude internationale qu'on a faite sur les dimensions de la pauvreté dans la méthode qu'on développe, c'est-à-dire à la fois avec des chercheurs et des personnes en situation de pauvreté, en croisement des savoirs. Et donc, on a identifié les dimensions classiques de la pauvreté, le manque de revenus, le manque de droits fondamentaux, mais aussi des dimensions cachées, qui sont les dimensions relationnelles, ce sentiment d'être toujours maltraité par les institutions, cette expérience, pas seulement un sentiment, et d'être aussi maltraité par les autres. C'est quand les enfants à l'école se moquent de Nathalie, c'est les enfants qui sont pauvrophobes, en fait. Et ce n'est pas une fatalité. On a pu évoluer en 100 ans sur le sexisme, sur la domination. On peut évoluer sur la pauvrophobie, mais il faut se rendre compte que c'est extrêmement grave et que ça a des conséquences.
Et on va continuer d'en parler dans un instant avec vous trois, Michel-Pierre Chélini, Bruno Tardieu, Anne Brunner, Madeleine. On marque une petite pause. Vous en profitez pour témoigner, pour nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous dire si vous êtes directement concerné par ça, si vous en connaissez également dans votre entourage, venez témoigner. 04 72 38 20 23, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Que connaissez-vous des travailleurs pauvres? Quelle image en avez-vous? Et si vous êtes directement concerné, avez-vous l'impression d'être invisible ou d'être mal compris, voire méprisé par la société? Et vous avez la parole, vous le savez, on vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Sous la peau, de la chair et des os, que nous avions du mal à protéger. Là-haut sur la falaise, les vautours attendaient, c'était chacun son tour, rien n'a changé. Notre histoire est si belle, et le monde est si beau. Essayons de faire voler nos vélos. L'aventure est si courte et le ciel est si grand. Essayons de bien prendre notre élan.
nous étions des humains. C'était Mickey 3D pour vous accompagner en ce mercredi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos trois invités jusqu'à 10h, Anne Brunner, je rappelle que vous êtes directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Bruno Tardieu, vous êtes volontaire permanent au sein de l'association ATD Quart-Monde. Et puis notre troisième invité, Michel-Pierre Chélini, professeur agrégé d'histoire économique contemporaine à l'Université d'Artois et à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes spécialiste également des salaires, de l'inflation et de la globalisation. Madeleine, on continue en attendant les appels de nos auditeurs au 04 72 30. 38 20 23.
Oui, Anne Brunner, je voulais vous faire réagir sur ce qu'ont dit nos deux invités précédemment, c'est-à-dire le fait que parfois on ignore la réalité des travailleurs pauvres. Ça, c'était une première remarque. Et puis la deuxième, c'était celle sur la maltraitance sociale et institutionnelle. Qu'est-ce qu'on ne sait pas finalement des travailleurs pauvres? Qu'est-ce qui reste cloisonné? Qu'est-ce qu'on a du mal à découvrir? Et de fait, vous avez pu peut-être être amené à le faire durant vos enquêtes.
Bon, j'ai un petit peu de mal à répondre à cette question. Peut-être ma première réaction, ce serait de dire que opposer travailleurs et chômeurs pauvres, il peut y avoir finalement des notions qui se recoupent beaucoup, parce que parmi les travailleurs pauvres, un des facteurs de pauvreté laborieuse, c'est le fait d'être en contrat précaire notamment, ou en tout cas de pas travailler toute l'année. Et du coup, finalement, être chômeur au moment où l'INSEE passe faire son enquête, ou être travailleur pauvre, c'est deux notions très très proches. Donc ça, je trouve ça intéressant de le souligner pour pas opposer les pauvres entre eux, éviter ce que fait déjà la protection sociale très souvent, en disant il y a des bons pauvres et puis des mauvais pauvres, il y a ceux qui travaillent, qu'on va soutenir, et puis ceux qui travaillent pas et qui méritent peut-être moins d'être soutenus. Donc peut-être relever un petit peu le sous-entendu qu'il peut y avoir derrière cette notion. Au fond, les personnes qui sont aujourd'hui au travail mais qui sont sous le seuil de pauvreté, ça va être très souvent des personnes à qui qu'on contraint dans un contrat précaire, un CDD, une mission d'intérim très très courte. Ce sont souvent des ouvriers, des employés qui n'ont pas le choix d'être à temps partiel, par exemple. Beaucoup de femmes subissent cette condition du travail. Donc finalement, c'est les conditions du travail qui sont proposées à toute une partie de la société. C'est ce qu'on appelle, nous, le mal-emploi. C'est-à-dire que au-delà du chômage, il y a le fait d'être à temps partiel subi, il y a le fait d'être en contrat précaire, le fait d'être trop découragé pour faire des démarches actives, d'être en mauvaise santé ou handicapé, d'être en difficulté pour chercher un emploi. Toutes ces notions, elles se regroupent un peu pour créer une fracture sociale entre ceux qui sont effectivement protégés par le travail, c'est le cas de la majorité des salariés notamment, parce qu'ils sont en CDI et que donc leur salaire leur permet à l'année de s'en sortir et de dépasser le seuil de pauvreté. Et puis tout un quart de la population active dont les plus protégés profitent, parce que c'est ceux aussi qui vont nous fournir des services à la personne, par exemple, peu chers, accessibles à tous, des services commerciaux accessibles sur un claquement de doigts sur une application à tous les horaires, du ménage, de la sécurité, des produits peu chers, et à qui on va demander toutes les flexibilités, à la fois celle du salaire bas, mais aussi celle d'un travail souvent très précaire, et puis des conditions de travail, des horaires désynchronisés avec le reste de la société, toutes ces conditions de vie particulièrement pénibles que soulignait M. Tardieu. Donc peut-être éviter d'opposer trop travailleurs pauvres et puis chômeurs pauvres, voire inactifs pauvres. Finalement, ce sont souvent des notions qui se recoupent beaucoup. Puisqu'on ignore aussi, peut-être à propos des travailleurs pauvres, c'est qu'il y a toute une partie de salariés qui, on pourrait dire, c'est quand même paradoxal, c'est ce que vous soulignez en introduction, un pays où il y a le SMIC qui est largement au-dessus du seuil de pauvreté, pourquoi le travail ne protège pas tous les salariés de la pauvreté? D'abord, il y a aussi des personnes qui sont donc au SMIC, mais pas à temps complet. Donc là, eux, ils peuvent avoir un revenu du travail inférieur au seuil de pauvreté. Il y a aussi ceux qui ne touchent pas le SMIC. Par exemple, si je pense aux assistantes maternelles, aux assistants familiaux, ça compose une population de près de 400 000 femmes, très souvent, qui, si elles débutent, si elles n'ont pas un agrément ou plusieurs enfants à garder, par exemple, elles peuvent être sous le SMIC. Donc voilà, il y a aussi des professions qui ne sont pas protégées par le SMIC. Il y a les indépendants chez qui on va trouver un taux de pauvreté plus élevé que chez les salariés. Finalement, salariés, retraités, c'est ceux qui sont le mieux protégés aujourd'hui de la pauvreté. Mais les indépendants, les chômeurs, ceux qui le sont le moins bien. Donc parmi les indépendants, on va trouver des inégalités énormes entre des professions extrêmement bien rémunérées, des chefs d'entreprise, des médecins, et puis à l'autre bout de l'échelle, des indépendants qui peuvent être des autres entrepreneurs ou des personnes avec des revenus très irréguliers et très faibles, et parmi lesquels on va trouver 10% de travailleurs pauvres.
J'aimerais qu'on écoute Jacques au 04 72 38 20 23. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors je disais que moi, j'avais eu plusieurs expériences de gens qui refusaient, en fait, de réclamer les aides sociales, en particulier des APL, et les motifs... Alors, c'était paradoxal, c'était des gens qui, en plus, me devaient un peu d'argent, qui avaient beaucoup de mal à me payer, mais qui faisaient des efforts, qui, des fois, même mettaient la famille, etc., pour faire ça. Et, en fait, eh bien, la raison pour laquelle ils refusaient, c'était soit parce qu'ils étaient jeunes et qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas commencé dans la vie en étant assistés, parce qu'ils travaillaient, c'était des gens en intérim, etc. Et puis, d'autre part, parce qu'ils ne voulaient pas être assimilés aux gens qui abusaient. Ça, c'est un élément que j'ai revu aussi dans les refus de prendre des congés maladie chez certains salariés.
Parce que vous êtes chef d'entreprise, Jacques.
Assimilés aux abuseurs. Et ça m'a un peu frappé, quoi.
Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir apporté cet éclairage et ce témoignage. Et je le précise, vous êtes chef d'entreprise. Voilà aussi pourquoi vous êtes venu témoigner ce matin. Bruno Tardieu, je me tourne vers vous. Il y a une forme de fierté peut-être du travailleur. C'est difficile parfois de demander de l'aide, encore plus quand on travaille.
C'est difficile de demander de l'aide, mais je trouve que c'est très important ce qu'a dit Anne Brunner. Il y a vraiment une porosité complète entre ceux qui arrivent à avoir un travail ou même parfois des travaux informels. On parle pas du tout du travail informel, mais ATD Quart-Monde est présent dans le monde entier et beaucoup, beaucoup de travail est informel, mais en France aussi. Bon, si on parle du travail formel, il y a beaucoup de gens qui font quelques heures, etc. Donc cette peur d'être assimilé aux fraudeurs, aux profiteurs, c'est vraiment une horreur parce qu'on a réussi vraiment à construire l'image de l'aide sociale comme des profiteurs. Moi, quand je suis malade, moi, je suis en CDI depuis 40 ans à TD Quart-Monde. Quand je suis malade et que je touche les sous de la Sécu, je ne me sens pas du tout coupable. Je considère que c'est un droit. Mais on arrive à transformer certaines prestations comme des aides. Alors, vous avez raison de dire que c'est difficile de demander. C'est vrai que c'est difficile de demander. Mais franchement, d'avoir peur d'être assimilé aux profiteurs, c'est vraiment quelque chose de très grave. Je vous ai parlé de la couverture maladie universelle. Il y a eu tout un tas de montées de boucliers en disant que les gens profitaient. Et donc, l'inspection générale de l'action sociale a fait une très, très forte enquête profonde pour voir qui profitait de la CMU et qui n'avait pas droit. Ils ont trouvé 0,04%. Donc, c'est totalement un mythe, cette histoire, que les gens profitent. Et malheureusement, la fraude sociale, maintenant, elle est calculée en incluant le travail au noir, ce qui mélange les gens qui trichent en demandant des aides et ce qui mélange les employeurs qui trichent en déclarant pas. Tout ça pour dire que c'est très important, mais c'est très important aussi de se rendre compte du méfait systémique de certaines notions qui sont vraiment des mythes, comme celle qu'a dénoncé Anne Brunner, les pauvres méritants et les pauvres non méritants. Mais le mythe du pauvre tricheur, c'est quelque chose de très important parce que la CMU, j'y reviens. Au début, on faisait son dossier pour 3 ans. Puis avec ce truc qui circule que les gens trichent et que ça nous coûte beaucoup de pognon, on doit la refaire tous les ans, la CMU. Et Marie-France Zimmer, dont je parlais au début, qui a fait partie du projet pilote pour l'établir, tous les ans, elle doit refaire son dossier CMU. Et tous les ans, il lui manque des papiers. Parce qu'il faut plein de papiers, parce que comme vous êtes tricheur, on va demander plein de papiers. On appelle ça la discrimination indirecte. Et pendant un mois ou deux, elle n'a plus rien, pas de CMU. Alors on dit que les gens ne réclament pas leurs droits. Mais c'est faux. On parle de non-recours. C'est faux, c'est un non-accès. Il y a un chiffre qui circule qui est très important. 30% des gens qui auraient droit au RSA ne le touchent pas. Oui. Et les chercheurs que je connais bien qui ont établi ça, ils appellent ça du non-recours. Mais c'est vraiment une très mauvaise notion. Ce n'est pas du non-recours pour la plupart, c'est simplement qu'il manque un papier. Mais les gens demandent. Alors non seulement les gens demandent, ils ne l'obtiennent pas, et en plus on leur met sur le dos qu'ils ne demandent pas. Donc ça devient vraiment plein de mythes qu'on projette sur l'expérience des gens, et l'expérience des gens, ce n'est pas ça. C'est vraiment les injustices liées au savoir, liées à la manière de se penser, qu'on a pu travailler avec les philosophes, qui sont très importantes parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça mine les gens d'être sans arrêt en train de lutter contre les idées fausses à leur sujet.
Oui, mais Michel Piacellini, je vous voyais hocher au pinet du chef. Est-ce que c'est effectivement quelque chose que vous avez aussi pu constater, les clichés aussi qui tournent autour des travailleurs pauvres, et d'où ça part ?
Alors ça remonte à très loin. Hein. Au 19e siècle, on avait un développement du monde ouvrier et on parlait de classe laborieuse comme classe dangereuse. Hein. Donc c'était une expression assez courante. Il y a même des collègues qui ont fait des ouvrages là-dessus. Mmh. Donc voilà, la méfiance ou la défiance qui vient souvent de la non-connaissance, de l'inquiétude face à une évolution, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est nouveau. C'est vrai que quand l'industrialisation se déclenche, elle se fait pas en un jour, hein, mais entre 1840 et 1880, d'un coup, on voit surgir, on passe de 2 millions d'ouvriers compagnons à 6 millions d'ouvriers, dont un bon paquet de manœuvres. On peut comprendre qu'une partie de la population craigne cette nouveauté, on va dire. Hein, et on a un peu le même phénomène aujourd'hui, après 1945, enfin aujourd'hui, dans les temps contemporains.
Vous êtes un historien, voilà. Donc vous avez une échelle de temps.
Je me promène un peu, voilà,
dans le
temps, excusez-moi. Mais disons, dans les temps plus contemporains, post-Seconde Guerre mondiale... On a le même phénomène avec les travailleurs migrants, les travailleurs étrangers, le travail informel, enfin toutes ces thématiques qui viennent d'être évoquées, ils sont tout à fait frappantes. On parlait aussi de l'évolution justement dans le temps. On a des chiffres à peu près fiables, on peut les reconstruire dans le passé, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on a des chiffres fiables de l'INSEE depuis les années 70, ce qui n'est pas illogique, puisque les chiffres de revenus des ménages en France, au sens comptabilité nationale, datent seulement, entre guillemets, de 1960. Il est vrai qu'avant 1960, on n'a pas le PIB, donc c'est difficile de faire la comptabilité totale des ménages. Donc depuis 1970, ce qui est très intéressant, c'est de constater que le taux de pauvreté a baissé des années 70 aux années 80 à peu près, exactement de 1970 à 1984, très certainement en raison des... Alors pas baissé énormément, on est passé de 18 à 14%, mais enfin bon, c'est quand même significatif, à une époque où la population quand même augmente de 300 à 400 000 personnes par an. Hein, donc c'est pas en termes de quantité, c'est pas négligeable. Et puis à partir de 84, une légère remontée observable en raison... du chômage, en raison de l'évolution industrielle, désindustrialisation, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas de l'évolution industrielle, et de la transition vers une économie plus tertiaire, enfin où les qualifications doivent évoluer. Et puis à partir de 96-97 et jusqu'à aujourd'hui, on sent des moments de rebond, par exemple le moment de la crise 2008, par exemple le moment du Covid, mais qui ne durent jamais très très longtemps, et une forme de, entre guillemets, stagnation autour de 14, 15, 16%, enfin, qui donne l'impression que à la fois la pauvreté, je parle toujours de manière statistique, hein, excusez-moi, c'est un petit peu désincarné ce que je dis, mais à la fois le volume proportionnel de pauvreté n'augmente pas, mais il ne diminue pas non plus, comme si on atteignait une forme, enfin en tout cas dans notre société, une forme de volant incompressible. Et puis pour finir sur ce point, et l'exemple est très facile évidemment, la croissance a sa grande importance. C'est-à-dire, certes, on est tous d'accord ici autour de cette table, mais c'est pas tout à fait exact, autour de ce réseau de table, on est tous d'accord sur le fait qu'il faille redistribuer et que la redistribution joue beaucoup, hein, la pauvreté. Actuellement, le taux de pauvreté pour l'ensemble des personnes, hein, je déborde des travailleurs pauvres, est de 14%, mais s'il n'y avait pas des aides fiscales, allocations familiales, etc., il serait de 20%. Donc il y a quand même un effet des politiques publiques qu'on peut chiffrer, s'évalue en milliards d'euros, hein, bien sûr. Donc il est clair que cette intervention, cette action a quand même un effet, mais la croissance, malheureusement, si vous me permettez cette expression, la croissance est le déterminant majeur. On le voit bien pour des pays, je caricature, entre des PMA des années 60 et puis Singapour ou Taïwan des années 60, la différence de niveau de vie n'est pas considérable. Aujourd'hui, Singapour est un espace développé. Le niveau de vie par habitant est supérieur à celui de la France. Alors, je dis pas qu'il y a plus de pauvres, mais la question de la pauvreté a pris une toute autre dimension avec une croissance qui est entre 5 et 6% par an et qui a vraiment modifié les conditions. Donc là, le fait qu'on soit une croissance de, je parle en très très grosse moyenne depuis 40 ans, une croissance de 1 à 2%, n'est pas une excellente nouvelle pour la pauvreté et explique très certainement une partie de la stagnation, même si la redistribution est aussi un élément. Ne me faites pas dire ce que
je
sais
pas. Oui, parce que en fait ce que vous posez comme question, c'est aussi la participation, enfin la politique de l'État en tout cas. Est-ce qu'elle intervient ou pas, et dans quelle mesure la croissance a aussi son rôle. Anne Brunner, je voudrais puisqu'on remonte un petit peu le temps, qu'on revienne sur l'époque des gilets jaunes. C'est un moment où on parlait beaucoup justement des travailleurs pauvres. Qu'est-ce qu'il en a été depuis ? Il y a eu la prime d'activité. Est-ce que vous avez constaté des modifications ou pas ? Comment ça a pu jouer en fin de compte ?
Bon, alors là, vous me parlez d'une période plus récente sur laquelle il faut d'abord que je sois assez prudente parce que nos dernières données sur la pauvreté datent de 2021, les revenus de 2021. Mmh. Et entre 2018 ou 2019, le début de la mise en place de la prime d'activité, et aujourd'hui, donc on a eu le Covid, et puis maintenant l'inflation. Donc un certain nombre de phénomènes qui font que, à la fois, on voit un effet sur la courbe, l'évolution récente du nombre de travailleurs pauvres, mais je suis pas complètement en capacité de dire quel est l'effet de la prime d'activité et comment ça se combine avec les autres choses qui sont arrivées depuis. Néanmoins, au crédit des Gilets jaunes, c'est clair, la création de la prime d'activité, elle a permis de compléter les revenus des travailleurs les plus pauvres. Et on voit une diminution. Alors, comment la commenter ? Pour moi, on est un peu dans l'épaisseur du trait pour le moment. Il faudrait prendre plus de recul. On voit une diminution du nombre de travailleurs pauvres dans un moment où la pauvreté globale n'a pas diminué. En fait, sur ces toutes dernières années, ce qui se passe, c'est plutôt une augmentation de la pauvreté chez les inactifs et une amélioration de la situation des jeunes, notamment, qui étaient extrêmement touchés par le chômage et qui bénéficient du retournement des courbes du chômage, et une amélioration sans doute aussi du côté des travailleurs les moins bien rémunérés ou des familles monoparentales. Tout ça demandera, on va préparer notre prochain rapport sur la pauvreté, des analyses un petit peu plus détaillées, et puis encore une grande prudence sur ce qui se passe là ces toutes dernières années avec l'effet de l'inflation qui vient pas forcément augmenter statistiquement le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, ça faudrait y regarder de plus près, mais en tout cas c'est sûr, aggraver les difficultés et les privations de toutes les personnes qui sont situées sous le seuil de pauvreté parce qu'elles sont pas forcément en proportion, mais en tout cas, ni en montant d'ailleurs, mais en tout cas, elles sont en proportion plus touchées par l'inflation, et puis surtout dans les privations que ça représente. Quand on n'a aucune marge de manœuvre, et qu'on n'épargne pas du tout, et qu'on est déjà dans une situation de privation, eh bien, voir sa facture de chauffage, ses déplacements ou son ticket de caisse alimentaire augmenter, ça suppose des arbitrages de plus en plus intenables.
Bruno Tardieu, on a envie de vous entendre sur à la fois cette prime d'activité et puis puisque c'est arrivé effectivement dans l'actualité, l'inflation aussi.
Cette affaire des choix intenables, c'est absolument central dans l'expérience des gens très pauvres. La prime d'activité a été bienvenue. Ce qui était aussi important, c'est pour les gens que je connais, c'est que les Gilets jaunes aient pu rendre visible une réalité. En fait, il y a une étude qui m'a beaucoup frappé, qui a été faite à Elbeuf, dans un quartier populaire d'Elbeuf, en Normandie, il y a 30 ans, et à nouveau il y a 10 ans. Et en fait, ça corrobore les chiffres que nous a Michel Pierre Chélini, c'est-à-dire qu'il y avait une stabilité en fait des revenus, mais par contre, une expérience complètement différente, les gens se sentant totalement atomisés, n'appartenant plus à un groupe social, à un collectif quelconque, ni par le travail, ni par quoi que ce soit. Et donc cette atomisation, ça fait que les gens se sentent beaucoup plus fragiles et beaucoup plus faibles et osent de moins en moins réclamer leurs droits. Et le monde syndical avec lequel on est en grand dialogue a du mal à proposer à tous ces travailleurs qui font quelques heures par-ci par-là. On parlait du SMIC tout à l'heure. Vous savez, les volontaires à TD Cameroun font une démarche comme faisaient à l'époque les prêtres ouvriers, c'est-à-dire de aussi aller vivre ensemble dans les quartiers très pauvres ou bien aller prendre le travail, aller prendre du travail aux côtés des gens très pauvres. Bon, on prend le travail de quelqu'un peut-être, mais en même temps, on arrive à faire voir, à faire valoir ce que les gens vivent. J'ai une collègue qui nettoyait les chambres dans les hôtels Accor, pour pas les citer. Donc elle était au SMIC soi-disant, mais elle devait faire 12 chambres en une matinée. En fait, elle s'en sortait pas. Elle mettait pratiquement la journée. Donc en fait, elle était payée à la moitié du SMIC parce que il y a des manières de contourner le SMIC en travaillant à la tâche. Donc oui, il y a cette expérience là d'avoir de l'inflation, c'est évident que les gens ressentent aussi très mal toutes les injonctions à manger des légumes, 5 fruits et légumes par jour. On fait beaucoup de travaux dans nos universités populaires sur l'écologie parce que on met sur le dos des pauvres qui sont pas écologiques aussi. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire à euro constant, quelqu'un d'officiel, hein, à euro constant, le pauvre pollue plus que le riche. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment une drôle d'idée. Mais en tout cas, les gens disent que bien sûr, ils sont conscients de tout ça. Bien sûr, ils voudraient aider. Mais quand on leur dit d'acheter des fruits et légumes, c'est juste pas possible. Et donc, l'inflation a un impact très, très direct. Et par rapport au Covid, moi, je me souviens aussi dans notre travail de philosophie, une femme disait, on nous a coupé plein d'aides concrètes, comme des aides à la maison et des choses comme ça. Et on nous a donné une prime, mais ça nous a beaucoup vexés parce que tout le monde nous a dit qu'on était des profiteurs. Nous, on ne voulait pas la prime. On voulait les soutiens concrets. Et très souvent, les gens disent, on décide pour nous ce qui va être utile pour nous. Et c'est comme ça que les gens finissent par penser qu'ils sont bêtes.
Je vous lis un message de Béatrice qui nous dit « Arrêtons d'opposer les travailleurs pauvres et les personnes privées d'emploi. Ces personnes perdent leur motivation pour rechercher des emplois à force d'être des refus et des rejets. Ils sont dans une grande insécurité. C'est pas le travail qui manque, ce sont les emplois. Ce n'est pas de l'argent qui manque. Il faut compter le coût social et économique de la privatisation d'emplois. Et ce n'est pas les talents et compétences qui manquent, mais les valoriser et des conditions de travail qui sont difficiles. » Je trouve ça intéressant, Madeleine. En plus, on arrive doucement à la fin de cette émission. Bruno Tardieu, comment vous réagissez à ce message de Béatrice ?
Ben c'est fondamental. C'est ni l'argent qui manque, ni le boulot. Donc nous, on a quitté le monde des entreprises d'insertion parce que de proche en proche, ils prétendaient qu'en 6 mois, il fallait retourner dans l'emploi à plein temps. Et donc, on a quitté ce monde-là pour créer une entreprise à but d'emploi, où les gens restent le temps qu'ils veulent. Et ça fait la racine, la graine pour les territoires zéro chômeur de longue durée. Et on prouve qu'en fait, il y a moyen de se mobiliser pour que énormément de gens trouvent un emploi. Et les entreprises à but d'emploi, c'est fondamental. On n'a pas tout essayé contre le chômage. Et c'est vrai que les gens se découragent, mais les gens ont vraiment envie de travailler. Il faut sortir de l'idée que les gens veulent pas travailler, les gens veulent être utiles, veulent être reconnus par les autres et aussi avoir un revenu décent. Donc les entreprises à but d'emploi et les territoires zéro chômeur de longue durée, c'est une expérimentation très importante qui prouve qu'il faut encore chercher et on trouvera des bonnes idées si on cherche avec les gens concernés.
Anne Brunner, un dernier mot pour la fin, peut-être quel regard devons-nous changer finalement ?
Moi, je voudrais dire un petit mot de la protection sociale et de cette question de est-ce qu'il faut attendre la croissance pour se préoccuper de la pauvreté ou en tout cas pour tenter de l'éradiquer. Notre pays a les moyens de soutenir les revenus jusqu'au seuil de pauvreté pour l'ensemble des Français, travailleurs, personnes au chômage, personnes trop découragées. Évidemment, le logement, l'emploi, c'est les politiques les plus importantes à mener, mais on a aussi calculé l'Observatoire des inégalités qu'il faudrait 7 milliards pour soutenir les revenus jusqu'au seuil de pauvreté pour tout le monde. Ce calcul vient d'être réactualisé à 11 milliards par Pierre Madec de l'OFCE. En tout cas, 7 ou 11, on est très en dessous du montant de la taxe d'habitation qui vient d'être rendue aux personnes des classes moyennes et les plus riches, qui est de l'ordre de 20 milliards par an. Vous voyez, notre pays a largement les moyens de lutter contre la pauvreté, s'il le souhaite.
Merci beaucoup, Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Merci, Michel-Pierre Chélini, professeur agrégé à l'Université d'Artois, à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des salaires inflationnistes. innovation et globalisation. Merci Bruno Tardieu d'ATD Carmonde, que vous avez dirigé et pour lequel vous êtes encore volontaire permanent. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci Madeleine Vatel. Et dans un instant, on va parler de la situation des saisonniers en France avec vos témoignages. À tout de suite.